fini, les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les maltraitances. Seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce, d'une logique de la rationalité du capital. La globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout. On ne la considère pas fatale. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Moi, je vous propose de vous retirer, maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions. Et vous retirez sur le côté, gentiment. Monsieur, comme ça, il n'y aura pas de violence.
Monsieur, en tout cas, aucun inconvénient, j'attends les ordres.
Allez, bonsoir, c'est Grégor, chaque semaine sur l'écho des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et Radio Primitive sur Reims. Grégor, une parole anarchiste communiste. Bonsoir.
Bonsoir. Alors ce soir, on va vous parler d'un fait beaucoup plus important que ces petites élections municipales là qui sont en train de se dérouler, puisque samedi soir, dans la nuit, a été signé un accord, avec tout ce qu'il peut y avoir de guillemets dans ce terme-là, réformant le principe de l'indemnisation chômage. Et pour nous parler de tout ça, on a un camarade au téléphone. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu m'entends?
J'entends.
Ouais, super. Merci, hein. Merci beaucoup d'être là, parce qu'en plus tu es actuellement en Assemblée Générale à Paris, à la commune libre d'Aligre, et vous êtes en train de parler de quoi, justement?
Là, on parle justement de cet accord qui a été signé d'une manière un peu scandaleuse et surtout tout sauf démocratique, et qui a été signé, et qui hélas encore un certain nombre de changements qui vont apporter des diminutions de droits, une fois de plus, et des économies qui sont faites toujours sur le dos d'eux-mêmes, c'est-à-dire des chômeurs, des précaires, et des plus vulnérables.
Alors oui, effectivement, parce que comme tout régulièrement sous forme de cycle, il y a la renégociation des accords de chômage, c'est ce qu'on appelle les partenaires sociaux, entre guillemets. Hein.
Il y aurait beaucoup à dire déjà rien que sur le terme de partenaires sociaux, puisque en fait ces partenaires sociaux ne représentent, dans ces partenaires sociaux, personne ne nous représente à la table de négociation, puisque il y a déjà 50% qui est attribué d'autorité au MEDEF, et le reste, les autres 50% sont attribués à un certain nombre de dits représentatifs, mais qui ne représentent que très très peu de personnes de notre profession. Ce qui fait qu'en fait, les décisions sont prises sans qu'on ait absolument aucun moyen ni d'intervenir, ni de donner notre avis. Par exemple, on a reformé depuis plusieurs mois maintenant un comité de suivi qui avait déjà été formé pendant les premières batailles après les négociations de 2003 et de 2004. Et dans ce comité de suivi, il y a un certain nombre de députés de tous les bords politiques qui signent un certain nombre, ce qu'on appelle une plateforme de revendications communes, où il y a un minimum de choses qui sont absolument sur lesquelles on ne peut pas revenir, et ce comité de suivi n'est absolument pas consulté, il ne peut pas donner son avis, il n'est pas du tout, il ne peut pas intervenir. Donc voilà, ça veut dire que le travail qu'on a fait pour examiner toutes ces modifications n'est pas pris en compte.
Alors, tu disais, tu parlais des représentants, il n'y a pas d'association de chômeurs, par exemple.
Il n'y a pas d'association de chômeurs, mais il n'y a pas non plus, mais même de syndicats, des patrons du spectacle, le Syndéac, n'est pas à la table de négociation de la commune. Le MEDEF, par exemple, qui était uniquement les entreprises de 500 millions de plus de 5000 employés, je crois. Je suis pas sûr tout à fait, mais il me semble que c'est quelque chose comme ça. Eh bien, évidemment, on n'a rien à faire avec nous. On ne représente absolument... On n'a pas de patron de ce type-là.
Alors, en plus, tout le travail que vous aviez fait, tous vos recherches et ce comité de suivi, il permettait non seulement d'avoir des arguments pour contrer la propagande, mais de démonter aussi toutes ces espèces de mensonges, puisque avant et pendant la négociation, il y a eu le refrain habituel de
les
déficits, années. Voilà, du déficit,
oui,
et il faut sauver le système, comme d'habitude. Ouais.
Oui, le célèbre déficit, qui est une chose que totalement, bien entendu, totalement fausse, puisque il n'y a pas de caisse spéciale pour les annexes 8 et 10, il n'y a qu'une caisse générale. Et donc, il ne peut pas y avoir un déficit des annexes 8 et 10. Le déficit, il y a un déficit global, mais il n'y a pas. Donc, c'est déjà nous mettre sur le dos, comme il s'est fait au début, le milliard d'économies à faire, enfin de déficit, c'est déjà une manipulation invraisemblable. Et tout dans les négociations, tout dans la présentation de ces modifications est de la manipulation. Sous couvert d'équité, de rétablir l'équité entre différentes catégories de travailleurs, on se contente d'imposer des gens qui ne l'étaient pas, enfin de prélever des choses sur des gens qui n'étaient pas prélevés. Avant, par exemple, il y avait la règle du tiré d'indemnisation qui ne s'appliquait qu'aux hauts revenus. Ils ont réussi à trouver un moyen que maintenant cette règle va s'appliquer également aux plus bas revenus. Donc voilà, c'est toujours la même chose, c'est donné que mensonge sur mensonge, et ce qui explique la colère des gens. Bon, ceux qui ont été les plus touchés dans la dernière réforme, ce sont les intérimaires,
qui vraiment
se retrouvent dans une position très difficile, puisqu'ils sont au bord d'avoir visé complètement l'annexe 4, qui est l'annexe des intérimaires, de toutes ces spécificités. Et que chaque personne va se trouver à avoir, après, c'est difficile de le faire, toutes les règles ne sont pas encore promulguées, mais va se retrouver d'avoir entre 400 et 600 euros de moins par mois. C'est des choses, c'est quand même terrible, parce que c'est énorme, comme pour quelqu'un qui travaille, 400 euros de moins, c'est terrible.
Ouais, et surtout, en fait, comme d'habitude, hein, dans la présentation qu'on disait des enjeux de cette négociation, il y avait véritablement l'objectif, et en tous les cas, c'était ce qui y arrivait, c'était d'opposer les uns aux autres, quoi, de dire effectivement, les chômeurs, alors soit ils foutent rien et ils profitent, et puis même quand ils profitent pas, il y a toujours des pourritures, comme les intermittents, parce que la culture, c'est un coût, et ça a un prix, hein, évidemment, hein, on ne sait jamais ce que ça rapporte. Parce que ça rapporte un maximum de pognon, quand même.
Bah, écoutez, on a calculé qu'en 2011, ça rapportait 23 millions d'euros à la ville d'Avignon, par exemple, le festival.
Ah oui, pour le festoche, ouais, d'accord.
Ouais. Alors, retomber comme à l'hôtel, terrasse de café, etc. Bon, je veux dire, on comprend.
C'est ça.
En 2003, les commerçants ont paniqué et ont demandé presque le statut de catastrophe naturelle pour leur centre. Mais ouais, je ne l'invente pas. Ils ont utilisé ce terme-là.
Ah ouais. Ah ouais.
Et voilà. On comprend bien qu'il y a un vrai enjeu. Il y a un véritable enjeu économique.
Non, mais après, c'est nous les assistés, quoi.
Comment?
Et après, c'est nous les assistés, quoi.
Bien sûr. Non, mais c'est tout. Non, c'est vrai que toute cette négociation est lamentable. Et encore, exemple du fait que c'est absolument pas démocratique, c'est que vous savez que la négociation passe à un certain nombre de jours, pendant un mois et demi à peu près. Les partenaires sociaux se retrouvent une journée, tous les 15 jours, 8 jours, enfin suivant les cas. Et dans les dernières négociations, entre le 18, le 20 et le 21, le dernier jour, le 21, il y a eu une interruption de 9 heures de suite, pendant lesquelles les partenaires se sont rencontrés deux par deux, où ils ont chacun négocié une petite chose qui allait leur permettre d'accepter la signature.
Effectivement, c'est un principe, c'est une méthode de négociation qui est extrêmement particulière quand même. Hein.
Oui, non, mais c'est des marchandages. Ce sont des marchandages de très péjoratifs pour les marchands de tapis que j'estime beaucoup. C'est des tapis absolument magnifiques. Enfin, c'est des marchandages de... a un exemple flagrant avec ce qu'a accepté FO pour signer le protocole, qui a accepté que le plafonnement qui au départ devait être à 3 160 € par mois soit monté à 5 002 à peu près, simplement pour satisfaire les plus hauts revenus, dans la mesure où les gens qui sont syndiqués à FO sont quand même en général des gens qui gagnent à peu près bien leur vie. Donc pour satisfaire sa clientèle, FO accepte de signer un protocole qui va faire 400 € sur le dos des autres, simplement pour avoir ça, ce qui représente une minorité de gens qui vont, mettre plafonné qu'à 5 200 €. Alors que, par exemple, nous, une des choses qu'on réclame depuis très très longtemps, c'est le déplafonnement des cotisations. Mmh. Puisque, évidemment, les cotisations sont plafonnées à un peu plus de 1 000 €, 1 200, je crois. Et que tout le reste, c'est quelqu'un qui gagne 10 000 €, et bien tout le reste, il ne se passe. Voilà, donc c'est quand même assez scandaleux aussi. Ça fait partie des choses, quand on dit qu'on peut trouver de l'argent, retrouver de l'argent, quand il manque de l'argent, ça fait partie des choses où là, on peut retrouver de l'argent. Il y a une niche, comme on dit.
Mais en fait, à chaque fois aussi, quand on a ces contre-feux qui se sont allumés, régime des intermittents, déficit, etc., à chaque fois, ça empêche pour les auditeurs lambda, et on va dire même le chômeur de base, qui est pas du tout péjoratif dans ma bouche, mais de comprendre à la fois les enjeux qu'il y a derrière ces négociations, mais aussi le principe de cette assurance chômage. Est-ce que tu pourrais un petit peu quand même revenir là-dessus, parce que je crois que c'est super important quand on parle de cette assurance chômage, de bien comprendre que c'est du salaire, mais du salaire différé, quoi.
Bien sûr, c'est la cotisation de chômage qui risque d'arriver dans le nouvel accord à près de presque 17%, enfin 16 et des brouettes, je veux dire, ça c'est intégralement partie du salaire du travailleur. C'est de l'argent qui lui appartient, c'est tout. De la même manière, bon, on a encore un autre exemple avec les congés spectacles qui sont aussi du salaire du travailleur, qui jusqu'à présent ne rentraient pas dans les calculs du salaire annuel de la personne, et qui maintenant, il en est question, je ne sais pas si définitivement c'est encore adopté, mais il est question que ça soit intégré dans le ce qui fait encore, bien entendu, ça augmente encore le salaire et ça permet d'avoir encore plus de cotisations dessus. Tout est fait comme ça. Le système du chômage n'est intéressant pour nous que parce qu'il repose sur la solidarité de tous. Or, depuis les accords de 2003, il y a déjà eu un début de capitalisation de l'UNEDIC. C'est-à-dire que c'est plus autant des droits mutualisés que ce ne l'était. Ça devient le plus, chacun capitalise un certain nombre de points, et c'est une manière de tout doucement sortir de la solidarité de tous. Et en fait, bon, c'est relativement clair que le MEDEF, après avoir bousillé un certain nombre de choses, n'a qu'un seul désir, c'est supprimer le chômage, purement et simplement. Oui. Que derrière toutes les manipulations, quand on s'attaque à une catégorie de travailleurs, c'est celle-là, puis l'année d'après ça sera une autre, et l'année d'après ça sera, jusqu'à ce que ça soit tout complètement vide de tout ce que ça contenait.
Mais pour ça, d'ailleurs, il y a effectivement des passerelles. Hein. Il faut rappeler qu'un des promoteurs, justement, de très agressif pour la transformation de cette assurance chômage, ou en tous les cas de ces règles de fonctionnement, était Denis Kessler, hein, qui était avant numéro 2 de l'ONF, qui, comme par hasard, aujourd'hui, se retrouve de l'autre côté chez Médéric
Rakoff. Et... d'assurance. Ouais. Oui, mais c'est lui qui a lancé la refondation sociale, la réactivation des dépenses passives, c'est-à-dire que tout cet argent de cotisation, cet argent qui rentrait dans la poche du travailleur, ce qu'il préfère de beaucoup, que cet argent revienne dans l'entreprise, sous une forme ou sous une autre. Bien sûr, ça fait partie de la destruction du système social, qui est en cours depuis un moment. On espère toujours qu'on arrivera à endiguer les choses et qu'elles n'aillent pas jusqu'au bout, mais pour l'instant, comme disait, je ne sais plus quel est le patron américain qui disait, l'économie c'est une guerre et nous l'avons gagnée.
Voilà.
Bon, c'est vrai que pour l'instant, ils réussissent. Et alors, ce qui est quand même le plus scandaleux, c'est que finalement, ils réussissent à obtenir autant de choses, sinon plus, sous un gouvernement soi-disant de gauche. Mm-hmm. Là, ça fait trop, c'est trop, quoi.
Et alors, effectivement, oui, comme tu disais, il y a effectivement ces assurances privées qui sont là et qui sont dans l'attente de capter justement cette partie de la richesse produite, parce bien que, sûr, répétons-le, on va radoter, mais bon, c'est de la richesse produite. Votre salaire, il est composé d'une partie de salaire direct, le salaire net, et puis le salaire différé. Quand vous regardez en haut le brut, c'est tout ce que vous avez travaillé, c'est tout ce que vous avez produit comme richesse, avec une
Absolument.
Partie qui arrive chez vous tout
Absolument.
De suite, une partie qui arrivera plus tard. Et ça, c'est fondamental, parce que il y a aussi derrière ça, alors il y a un projet de société, c'était le projet de refondation sociale, comme tu disais, de la part du MEDEF, mais il y a une conception vraiment spécifique. D'ailleurs, on retrouve dans l'organigramme de ce MEDEF des types comme François Ewald, qui sont des gens qui ont travaillé avec Foucault, mais qu'on a retenu aussi des choses, mais où chacun devrait être responsable de soi-même, en fait.
Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est une manière de détruire le lien entre les travailleurs et le lien social, évidemment. Bien sûr.
Avec effectivement tous les trucs hérités du monde anglo-saxon qui dit que la société n'existe pas de toute façon, il n'y a que des individus, et que toi, si tu veux pas effectivement t'assurer pour où t'as pas les jours où t'as pas de travail, t'as pas à payer pour les autres, quoi.
Hein? Oui, bien sûr, bah c'est exactement le contraire de ce que nous connaissons sous le nom de solidarité depuis quand même un moment, et on sait à quel point ça fonctionnait bien. Et ça n'empêchait pas, ça n'a jamais empêché non plus les gens qui voulaient gagner de l'argent de gagner de l'argent. Bon, ça marchait, c'est quelque chose qui fonctionnait. Voilà.
Bah, de toute façon, hein, quand tu sais qu'à la sortie de cette négociation, le représentant du MEDEF, Jean-François Pillard, se félicite en disant « Nous sommes satisfaits de cet accord, nous n'avons jamais été dans une logique d'augmentation des cotisations », tu sais forcément qu'il y a un loup derrière, quoi.
Bien sûr. Surtout que, évidemment, quand il dit qu'il n'a jamais été dans une logique d'augmentation des cotisations, il ment, puisque justement, dans ce nouvel accord, il y a en particulier pour les entreprises, pour les petits patrons du spectacle ou pour les intermittents du spectacle, un doublement des cotisations, comme il y en avait déjà eu un en 2003, où on était passé de 5,4 à presque 9,8 ou quelque chose comme ça. Et là, on va arriver avec en plus une surcotisation pour ceux qui abusent du contrat du CDD d'usage. Dans notre profession, on a des contrats à durée déterminée d'usage. Normalement, dans les autres professions, on ne peut pas les multiplier. Nous, on peut les multiplier parce que on a des employeurs multiples, on travaille avec des gens très différents, et donc à chaque fois, ça peut être des contrats relativement très courts. Donc il y a ce qu'on appelle le contrat d'usage. Mais bien, ceux qui vont abuser du contrat d'usage, et on ne sait pas selon quelles règles, parce que ça, les règles, bien entendu, ne sont pas encore publiées, auront en plus du doublement des cotisations patronales et salariales une surcotisation pour réprimer l'abus de l'usage de ces contrats, alors que nos professions reposent là-dessus. Ça parle de soi-même pour quelqu'un qui est de bonne foi. La seule chose, c'est qu'évidemment, ce ne sont pas ils sont pas là pour être de bonne foi, ils sont là pour faire des économies, et comme le préalable de base aux négociations était pas d'augmentation de cotisation pour le patronal, les entreprises ne peuvent pas supporter un surcroît de cotisation. Évidemment, toutes les dépenses sont faites, enfin les économies sont faites sur le dos des chômeurs.
Mais alors, ça va entraîner une catastrophe, ça, pour les petites compagnies, les petites...
Parce que elles ont commencé depuis longtemps. Elles ont commencé en 2003 avec déjà plein de gens qui ont nous on évalue, mais c'est difficile d'évaluer exactement, mais enfin on pense qu'il y a quand même plus de 15 000 personnes qui sont sorties sur les 150 000 qui font partie officiellement du régime. Il y a au moins 15 000 personnes qui en ont été sorties, sans doute un peu plus, et maintenant on sait que les gens qui réussissaient à avoir régulièrement leurs heures tous les ans, maintenant il y a des gens qui quittent le système pour 3-4 mois, qui reviennent, qui glissent au RSA, qui reviennent, enfin bon, ça, il y a plus du tout la même stabilité qu'il y a pu avoir par le passé.
Est-ce que tu peux nous parler de la franchise, la fameuse carence?
Alors oui, le système de la carence, c'est un système qui n'est pas nouveau, hein, on l'a déjà connu il y a quelques années, mais il était en principe réservé aux plus hauts revenus. Plus tu gagnais d'argent, plus tu avais de nombre de jours de carence, mais ça restait dans un volume relativement raisonnable. Alors quelqu'un qui travaillait par exemple tout le temps, tout le temps à la télévision, il touchait jamais d'indemnité parce qu'il avait une carence suffisamment importante pour qu'il ait retrouvé largement du travail avant de... Mais financièrement, il n'en avait pas besoin. Je veux dire, il gagnait suffisamment d'argent pour ne pas avoir besoin de... Or, maintenant, ce qui va se passer... Alors, on ne connaît pas, bien sûr, encore non plus tous les détails là-dessus, mais ce sont aussi les petits salaires qui vont être touchés, alors qu'avant, ils ne l'étaient pas. Ce qui fait que donc quelqu'un qui gagne déjà pas beaucoup va gagner encore un peu moins. Et le paradoxe, c'est qu'en revanche, ceux qui gagnent le plus vont avoir des carences qui, elles, vont diminuer.
Ouais, lui, le moitié, je suis...
C'est totalement scandaleux.
Ouais, c'est vraiment incroyable.
Alors, c'est-à-dire qu'on parle en niveau chiffre, on parle de avant, il y avait un différé de 75 jours. Maximum. Et là, on va avoir un différé de 180 jours. Mais ça peut être aussi plus important dans certains cas. Ce qui fait que quelqu'un peut se retrouver à ne avoir aucune indemnité d'aucune sorte pendant plusieurs mois, sinon une année et quelques.
Une année?
Voilà. Ça peut aller jusqu'à une année.
Ça peut monter jusqu'à 300 jours.
Oui, oui.
Ça veut dire un an sans revenu d'aucune sorte.
Non, bah si, sans revenu, enfin, s'ils travaillent.
Oui, s'ils travaillent, bien sûr. Mais
parce que comme on a tout, ils ont gardé à l'intérieur de ça le système des 243 jours, il faut bien que tu travailles quand même de temps en temps. Donc, à chaque fois, ça repousse l'échéance, et donc tu peux très bien te retrouver à avoir plusieurs mois de suite, et donc, en comptant ton temps de travail, un an sans indemnisation.
D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler aussi des salaires journaliers, du principe du salaire journalier?
Du salaire journalier? Ah bah écoutez, ça c'est plus compliqué parce que ça varie beaucoup suivant les entreprises, suivant les professions, etc. Ah, bon, le SMIC, nous avons le même SMIC que les autres, hein. C'est 9,53 €, etc. Et les gens qui autrefois... Les conventions collectives sont appliquées dans nos professions, ce sont celles en gros des entreprises de spectacle, ce sont celles du Syndéac, mais comme dans toutes les professions, on voit tout le temps dans le cinéma maintenant des gens qui acceptent de travailler à moins 40% de la convention collective. Alors les montants exacts, ça je peux pas vous les dire, je les connais pas, parce que c'est surtout parlant au cinéma. Ça, je suis plus, je fais plus théâtre vivant, donc je connais un peu moins. Les chiffres, je peux pas vous les donner, ça, je dirais des bêtises.
Ouais, d'accord, mais c'était sur le principe, quoi. Bon, écoute, on peut quand même dire que face un peu là à la montagne d'horreur que tu viens de nous égrener, bah oui, non, mais
c'est pas réjouissant.
Non, je ricane, mais c'est pour pas pleurer. Mais il y a quand même de la résistance, quoi.
Ah là, oui.
Ça
oui,
se bat
oui,
quand même.
Hein. Elle a démarré pour une fois, si vous... Donc, on s'attendait au coup cette fois-ci. Ouais. En 2003, tout le monde avait été un peu surpris malgré tout, même si on y travaillait déjà un peu avant, mais tout le monde avait été surpris de la signature de l'accord qui, pour la première fois, remettait en question le fondement principal des annexes. Jusque-là, moi je suis dans le métier depuis 50 ans. Et donc j'ai vu toutes les négociations depuis très très longtemps, en m'y intéressant pas toujours autant que maintenant. Mais c'était à chaque fois des modifications plus à la marge, bon, plus sur le fait que bon, on diminuait un tout petit peu le montant de l'indemnité, on diminuait des petites choses. Ça restait, on se faisait grignoter, mais ça restait non pas acceptable, mais ça paraissait possible. Or, en 2003, pour la première fois, on a foutu en l'air complètement le principe même des annexes 8 et 10, c'est-à-dire d'abord on a séparé les techniciens des artistes, ça veut dire que aussi on a
tu disais que tu parlais de l'acte fondateur de 2003 qui avait été justement de désinguer le principe.
Oui,
de...
c'est ça, j'ai retrouvé, tu as raison. C'est-à-dire que avant tout reposait sur un cycle qui était toujours le même, un cycle d'un an avec une date anniversaire auquel tes droits étaient recalculés, et à ce recalcul tu étais reparti pour aussi un an. Donc pour les utilisateurs c'était possible d'envisager son avenir, de savoir comment ça allait se passer en fonction des projets qu'on avait, en fonction du travail qu'on avait, de tout ça. Or c'est cette sécurité là justement qu'ils ont voulu désinguer, et qu'ils ont désingué en supprimant la date anniversaire et en faisant que, au lieu d'être indemnisé sur un an, t'es indemnisé sur 243 jours, c'est pas seulement un certain nombre de jours qu'on te retire, c'est aussi les points de repère. Mmh. Et comme 243 jours, tu retravailles pendant ces 243 jours, ces 243 jours, tu as un effet de tiroir glissant qui fait que, par exemple, si tu travailles pas mal, tu peux très bien se retrouver à que les heures qui étaient au début de ton parcours de ce renouvellement, elles soient perdues, simplement parce qu'il est trop tard, elles sont plus dans le cadre. Et donc voilà, c'était déjà rajouter de l'instabilité à une profession qui, par définition, est un peu instable et pas toujours très très facile. Donc c'est là où ça a commencé. Et donc depuis 2003, on avait mis un petit peu de temps à se mobiliser. Mais enfin, malgré tout, ça avait été très formidable, puisqu'on avait réussi quand même à arriver à l'été, et quand même, là, ils se sont rendus compte un tout petit peu de l'impact économique de ce qu'on représentait. Mmh. Et on a réussi à obtenir quand même, sans réussir l'abrogation du protocole qu'on réclamait, on a réussi à avoir quand même certaines victoires. On a obtenu l'AFD, c'est-à-dire une aide à ceux qui se retrouvaient sans droit pendant un certain temps. On a obtenu une remodification du statut pour les femmes enceintes qui se retrouver complètement à la rue dans ce système. On a obtenu des choses. Après, les autres renégociations en 2006, 2007, 2009, tout ça, elles se sont passées plus cool parce qu'ils n'ont pas touché à grand-chose. Là, cette fois-ci, on avait senti un tout petit peu, il y avait des bruits, il y avait les menaces de Gattaz qui disaient qu'ils voulaient supprimer les annexes, qui était plus un cri pour faire peur au loup, quoi. Mais malgré tout, ça a mobilisé, ça a fait que les médias s'y sont intéressés, et donc on était plus prêts à la lutte, et donc on a commencé à lutter depuis quand même beaucoup plus longtemps, puisque tout à l'heure tu parlais de l'occupation qu'on a fait la semaine dernière à Garnier, ouais. Mais en fait des occupations, ça fait un mois qu'on en fait, on a occupé le MEDEF, on a occupé la CGPME, on a occupé la Cour des comptes, on a occupé l'Opéra Garnier et on a enchaîné, on a fini là ce week-end en étant à l'espace du carreau du Temple pour lui préparer une grande exposition d'artistes qu'on a un peu perturbé pendant quelques jours.
Ouais, empêché les gens de travailler, c'est ça?
Ben, on n'a pas empêché les gens de travailler. On a empêché les camions de décharger pour l'instant, etc. Bon, maintenant c'est fait. On a été évacué hier soir d'une manière un petit peu musclée, faut dire. Moi qui ai été évacué plusieurs fois quand même depuis que je lutte, c'est la première fois que je suis obligé d'aller aux urgences après pour me faire soigner. Mais ça a été assez violent.
C'est donc, assez là, agressif, c'est... Ouais. Sur les images, on sent que il y a un enjeu, quoi. Ils ont envie de faire mal et de faire peur et de faire chier, quoi.
Ils ont paniqué, hein. Ils avaient très peur parce que là, ils se sentaient extrêmement prisonniers de cette occupation. Mais la seule chose, c'est que c'est comme d'habitude. Notre interlocuteur dans ces cas-là, c'est le secrétaire général de la mairie de Paris, Monsieur Danon, qui est un psychorigide. C'est tout. C'est un homme qui n'a pas d'imagination, qui était fait pour être maître d'école au 19e siècle. Et c'est tout. Voilà. Il n'est pas accessible au raisonnement. Il n'est pas accessible à l'humain. C'est un gestionnaire. Et bon, moi j'ai eu une petite conversation avec lui avant-hier matin. Et il m'a dit, la seule chose qu'il m'a dit, mais quand même, vous n'êtes pas sensible à la perturbation économique que vous provoquez. Je lui ai dit, écoutez, moi, non, le carreau du Temple, pour moi, c'était un espace public jusqu'à ce que vous en faisiez un outil d'événementiel pour gagner de l'argent. Donc, ça ne me concerne pas, ça ne m'intéresse pas, c'est votre problème.
C'est un marché couvert hein, pour les non-parisiens au départ.
Absolument, ça a été un marché couvert alimentaire pendant très longtemps, puis c'était devenu un espace de vêtements, plus si c'était des marchands de vêtements qui se retrouvaient là. Et donc voilà, c'était même un truc qui était... Alors, ça a toujours eu un aspect commerçant, mais c'était un aspect commerçant au service de la population. Là, c'est un truc, c'est un lieu d'événement pour Bobo, etc., Branchouille, etc. Ce n'est pas forcément méprisable, mais enfin bon, c'est pas la même chose.
Ouais, mais c'est eux qui votent. Bah, donc du coup, il y a certains d'entre vous qui sont allés faire des petits coucous, puisque pour ceux qui seraient partis sur une île déserte, dimanche c'était les élections.
Oui, on est allé voir un petit peu les candidates pour pour leur c'est pareil, pour leur expliquer un tout petit peu.
Leur rappeler que vous êtes vivant, quoi, encore qu'ils n'ont pas eu voix de peau, quoi.
Non, on est toujours là, puis j'ai hélas peur que la manière dont ils nous répondent, ça ne fasse que nous donner envie de continuer encore plus.
Oui, parce que vous avez été reçu particulièrement de manière sympathique chez Madame Hidalgo.
Oui, c'est encore la grande logique et la grande cohérence des socialistes, dont M. Ocar, il y a 4-5 jours, a publié un communiqué du Parti Socialiste, de la Commission Culture du Parti Socialiste, pour soutenir à fond le combat des intermittents, qui 3 jours plus tard leur envoie les CRS. C'est la même chose que ce gouvernement, qui se prétend de gauche et qui fait des cadeaux au patron sous prétexte de pragmatisme et de vue lucide de l'économie. C'est lamentable.
Mais peut-être que je crois, parce qu'il y a quand même une petite nouveauté par rapport, en tous les cas, moi je le crois comme ça, hein, tu me diras si je me trompe, mais il y a une petite nouveauté par rapport au précédent mouvement, c'est que là vous avez réussi, en tous les cas vous avez inclus, vous avez démontré que ce qui se passait pour les intermittents vraiment touchait tout le monde, et que l'assurance chômage, quand vous parliez des intérimaires, des précaires, etc., etc., montrait que c'est tout le monde qui doit se mobiliser derrière cette destruction de ce que pouvait être une édite, quoi.
D'ailleurs, dans toutes les AG unitaires qu'on a, il y avait des présences des intérimaires et des associations de chômeurs et des précaires de tous les précaires. Alors évidemment, ils ont pas autant historiquement les intérimaires sont pas encore historiquement autour d'années de lutte, mais je pense qu'ils vont apprendre vite, parce que là, on les traite d'une telle manière que c'est scandaleux, seulement scandaleux ce qu'on leur fait. Toutes les petites choses qui comparent à leur précarité, que c'est quand même, la moyenne du contrat c'est 15 jours, hein, exceptionnellement 3 semaines, c'est des contrats courts, une fois de plus, donc ça veut dire encore plus de précarité d'habitude. Si on leur supprime les comparts qui les protégeait un tout petit peu, voilà. D'ailleurs, il était presque question qu'on supprime, que simplement l'annexe 4 n'allait pas supprimer officiellement, mais elle est vidée de sa substance.
Et donc là, forcément, le potentiel de subversion, il est quand même très très important. Moi, dans ma ville, ici à Reims, c'est la première fois où on avait, alors à la fois des intermittents qui étaient en grève sur l'ensemble des théâtres et des salles de spectacle de la ville, avec des chômeurs.
Ça
relève de quelque chose, quoi.
Oui, mais bien sûr, mais c'est ça qui leur fait peur. C'est forcément ça qui... Oh là, excuse-moi, il y a une benne qui passe. La convergence des luttes, c'est ce qu'on a tous... On a tous envie d'y arriver depuis 11 ans qu'on lutte. On n'y arrive pas toujours. Et on y arrive, c'est très extrêmement difficile. Et là, c'est pas parce qu'il y a quelques intérimaires qui viennent avec nous et ça qu'on y est parfaitement arrivé. Mais c'est un objectif et ça ne peut que continuer à être un objectif important, parce que c'est la seule manière que tout le monde de se battre ensemble, puisque on a le même ennemi et c'est les mêmes méthodes. Donc voilà, il faut vraiment y arriver. C'est pas toujours facile de faire comprendre aux gens, parce que nous, intermittents, et on a toujours cette étiquette qui nous colle à la peau d'être des privilégiés, d'être des nantis, ce qui est faux, ce qui est complètement faux. Je veux dire, il y a évidemment quelques personnes, celles qu'on voit, qui gagnent bien leur vie, très bien leur vie, mais ça représente un pourcentage très 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 faible de l'ensemble de la profession. Et la grande majorité, ce sont des gens qui sont en gros, tournent aux alentours un peu plus, un peu moins d'un SMIC, c'est tout. Voilà.
Et est-ce que il nous reste quelques minutes, là, on va devoir conclure. Malheureusement, on n'a pas réussi à rentrer dans tout ce que ça relève, mais de toute façon, pour les gens qui voudraient creuser le truc, il y a le site de la CIP, alors c'est CIP-IDF, qui à la fois recouvre tout ce qui se passe et essaye justement de creuser les problématiques qui ont été soulevées dans la conversation. Est-ce que je te laisse la conclusion, si tu as envie de rajouter quelque chose, peut-être nous donner des rendez-vous qu'il pourrait y avoir?
Là, pour l'instant, les rendez-vous, justement, l'Assemblée Générale de ce soir, elle est en train elle est, je suppose, parce que j'y suis pas, elle est en train de, elle est en train de les établir. Mais de toute façon, jeudi, dans le courant de la semaine, il y aura une assemblée générale unitaire, parce que en fait, on travaille aussi, on arrive à travailler aussi avec la CGT. Elle a parfois ses propres assemblées, nous avons parfois les nôtres, et puis nous avons des assemblées générales unitaires où on fait tout ensemble. Mais depuis le début de la lutte, on a mené ce combat ensemble.
D'accord. D'accord. Bah écoute, de toute façon, nous en tant que chômeurs aussi et précaires et pas intermittents, on est principalement concernés, donc on relayera tout ce qu'on peut, et puis de toute façon
avec plaisir, merci.
Je t'en prie. Merci. Ne quitte pas, s'il te plaît, et nous on va écouter un peu de musique.
D'accord.
Ah bah moi je sors plus, hein. Ah bah non, hein. Bah à cause de la reconnaissance, hein. Ça a drôlement augmenté la reconnaissance, hein. Ah surtout avec les arabes, hein, oui.
Pour ça qu'est-ce que je vous dis, c'est à cause de la reconnaissance. Puis tout le monde fait qu'est-ce qu'il y a. Alors elle est belle la France. Pour ça qu'est-ce que je vous dis, c'est à cause de la reconnaissance. Puis tout le monde fait qu'est-ce qu'il y a. Alors
regardez, Jospin, en 5 ans, il a rien fait de bien grand, ni envers, ni refaire, il nous laisse comme de ronds de gens, puis Raffarin est pas mieux, hein. Soit dit en passant, c'est qui frife et haricot, tout ça c'est du même cajou, puis leur décentralisation. Quoi, j'en veux pas, voyez déjà avec Tchernobyl et l'Anatol de Morue au rang, c'est bien joli de changer les élections en quinquina, mais les années bissextiles, ils y pensent pas, hein.
Pour ça, qu'est-ce que je vous dis, c'est à cause de la connaissance, si tout le monde fait qu'est-ce qu'il dit, alors elle est belle à France. Pour ça, qu'est-ce que je vous dis, c'est à cause de la connaissance, si tout le monde fait qu'est-ce qu'il dit, alors elle est belle à France.
C'est pour ça, moi, la dernière fois, j'ai voté contestataire. Au moins, lui, tiens, ses promesses, il a les épaules sur terre. Avec lui, l'Europe sera française et chacun sera chez soi. Il a promis qu'il augmenterait le pouvoir des chats. Enfin, je les dépense sur la gourmette parce qu'on n'en est pas là. Avec tous les coups en France, c'est sûr que jamais il passera. Sans lui, l'insécurité, elle restera dangereuse. Ça, la France est pour aider, hein. Puis le fossé, il se creuse, hein.
Je vous dis, c'est à cause de la connaissance. Si tout le monde fait qu'est-ce qu'il y a, alors elle est belle la France.
Regardez-moi tous ces feignants qui sont au chômage et après veulent le droit de vote, j'appelle ça du chantage. Le Rémi et la CEDIC, c'est un dos de malheur pour la France et c'est pas les Français qui y touchent quand on y pense. Entre nous pour le chômage, c'est la sécurité de l'emploi, dites-moi pas que c'est pas vrai, hein. Dites-le moi pas, ils le disent à la télé, nous on touche le fond de notre pension et ça aide pas des bordés de diplômes, hein. Ça non, hein.
Oh.
Ah, ça serait mon beau fils, il a... Il a pas de diplôme, mais quand même, hein. Ah puis on dit l'Europe, mais sont dans les choux à Bruxelles parce que l'Europe ça rapproche les peuples. Qui pareil, mais quand on voit qu'est-ce qui se rapproche entre nous, bah c'est pour les bons, hein. Moi je dis ça, je dis rien. Non.
Qu'est-ce que je vous dis, c'est à cause de la connaissance. Tout le monde fait qu'est-ce qu'il dit, alors elle est belle la France. Qu'est-ce que je vous dis, c'est à cause de la connaissance. Tout le monde fait qu'est-ce qu'il dit, alors elle est belle la France.
Ah oui. Mais jeunes, il leur faudrait aux jeunes, c'est une bonne guerre, ma soeur apprendrait à vivre. Et entre nous, on n'était pas si mal que ça en 40, hein, non. Allez, oui, merci, au revoir d'être venu.
Oh, j'aime pas.
Comprends rien, c'est bien, fatigue, hein.
Pour ça, qu'est-ce que je vous dis, c'est à cause de la connaissance. Et tout le monde fait qu'est-ce qu'il y a, alors elle est belle la France.
Allez, maintenant, on enclenche sur la redoute, hein, comme vous le savez, la CDT a signé. Alors, pour sauver la marque.
Ouais, redoute. L'entreprise, bien sûr, ouais. Ouais. Ben, Fabien, tu es là, tu vas nous aider un peu?
Oui, bonjour
ouais,
tout le monde.
Ouais, salut, ouais. Ben, oui, on est un peu emmerdé quand même, parce que, ben, aujourd'hui, là, à 15h30, la CFDT et son représentant Blancard a signé le l'accord, ce qui fait que voilà, c'est parti quoi. C'était vraiment la dernière limite. Je crois que ce qu'il faudrait qu'on revienne aussi là-dessus, c'est comme on disait tout à l'heure avec les intermittents, il y a quand même eu une belle opération de communication réalisée à propos de cet accord et de la démarche de la direction. Fabien, tu pourrais essayer de revenir là-dessus avec nous, s'il te plaît.
Ouais, totalement. Ouais, donc, ben, c'est clair, c'était du spectacle de la part de la direction pour retourner l'opinion publique, enfin tout ça, quoi. Et alors moi, j'étais vendredi, j'étais au siège à Roubaix, et j'ai vu dans les médias. Alors, faut savoir que les médias, ils ont retenu que les bonnes images, hein. Mais donc vendredi, c'était logiquement l'ultimatum de la direction pour signer l'accord. Et le matin, les gens de la Martinoire, qui sont les plus mobilisés, donc c'est eux les redoutables, hein, les gens en lutte, sont venus au siège social pour faire pression et pour dire on veut pas de cet accord, nous ce qu'on veut c'est 40 000 euros, c'est pas 20 000 euros de prime de licenciement. Et donc ça commençait à chauffer, et là on a vu les cadres du siège social descendre avec des pancartes toutes prêtes, toutes bien imprimées, où c'était marqué qu'il fallait signer pour l'avenir de la redoute. Et ils sont allés se présenter devant les médias. Voilà, donc là, les redoutables ont réagi assez rapidement. Et pendant une heure, il y a eu de part et d'autre des slogans. Voilà, donc c'était un peu chaud. Bala et Courteil, tels des sauveurs, ont essayé de surgir de la foule pour parler. Alors dans les médias on les entend bien, moi là où j'étais j'entendais que dalle, hein. Donc, c'était juste des grosses insultes et dire que c'était vraiment des pourris, quoi. Donc c'était voilà, donc j'ai pas vécu la même chose que ce qu'on voit dans les médias par exemple.
Et est-ce que tu avais entendu parler de cette association qui s'était créée, cette pétition qui avait été lancée pour justement sauver la redoute, et une association de salariés pour demander au syndicat d'accepter de signer en fait. T'avais entendu parler de ça, non?
Ouais. C'était déjà il y a une ou deux semaines.
Ouais.
C'est le collectif Signé pour la Redoute qui, ouais. Comme ça se fait en ce moment, ont créé une page Facebook ou des choses comme ça. Et qui ont fait un gros tapage là-dessus. Il faut savoir que c'est des gens, c'est des cadres plus qui ont créé ça, quoi.
Ouais.
Qui ont créé ça et qui ont eu aussi le matos de la CFE-CGC pour imprimer les tracts, puisqu'après il y a eu des tracts.
C'est ça. Et en fait, donc, le problème, il était transposé, je dirais même transvasé d'un plan social, parce qu'il y a un plan de licenciement, à une espèce de truc, il faut sauver la boîte. Mais il faut sauver la redoute. Mais la redoute, c'est quoi? Qu'est-ce que ça signifie? C'est ça. C'est-à-dire que pour sauver la redoute, il faut que les gens y crèvent, en fait.
C'est ça. Ils ont réussi. Et c'est ça, c'est... Ils ont retourné, en fait, le problème, puisqu'au début, c'était... il va y avoir 1200 suppressions d'emplois. Les gens, ils luttent pour sortir avec le plus de thunes possible. Et on a réussi à faire retourner, même dans la tête des gens. Hein, c'était fou. Hein, ils ont vraiment réussi au sein même des redoutables, à foutre la pression en disant que la redoute, c'était 6000 salariés en comptant les sous-traitants. Chiffre discutable. Hein, moi, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment 6000 personnes. Mais en tout cas, ils ont foutu la pression. Et puis voilà, après ça s'est déroulé et on a eu la CFDT qui a retourné Kazakh et qui voilà aujourd'hui par Jean-Claude Blanquer a signé l'accord. Hein.
Alors que la base de la CFDT avait encore dit ce matin qu'elle était contre la signature.
Totalement, moi le vendredi en parlant avec des gens de la CFDT, Jean-Claude Blanquer ils le portent pas du tout dans leur cœur, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils ont dit, de toute façon, s'ils signent, nous, on brûle nos cartes et puis voilà, on va foutre le bordel. Bon, ça, c'est à vérifier, hein, mais en tout cas, voilà, il y a vraiment une base qui fait beaucoup. Au sein même de la CFDT, il faut savoir que Jean-Claude Blanquer, il n'apparaissait plus devant les salariés. Et là, avant l'émission, j'ai appelé un copain de là-bas qui me disait que ce matin, il y a eu une assemblée générale avec les syndicats, mais aussi les redoutables. Donc les redoutables, c'est la base qui pousse. Hein. C'est les gens de la CGT, de la CFDT, de Sud, enfin même des non-syndiqués, beaucoup de non-syndiqués. Et il m'a dit que Blanquer, ils l'ont pas vu. Ils l'ont vu juste à la fin parler devant les caméras. Et donc après, là j'ai ce matin, il est allé au siège de la CFDT à Tourcoing ou à Lille, je ne sais plus.
À Lille, hein, avec des gens de l'Union locale et avec même des Parisiens qui sont descendus.
C'est ça. Il y a eu tout le staff était là et on lui a bourré le mou et puis on a sûrement dû lui faire un petit cours de communication pour ce soir, puisque en plus il n'apparaissait plus du tout devant les caméras depuis une ou deux semaines, quoi.
On se souvient que la CFDT et des conflits dans le Nord avaient été jusqu'à foutre en l'air ses délégués en signant à un autre degré, à une autre place de la hiérarchie, et en déjugeant et en dédouanant, en virant même carrément les délégués CFDT qui eux refusaient ou qui n'étaient pas, on va dire, dans la ligne, quoi.
Ah bah c'est clair, 6 francs qu'ils étaient annoncés,
ouais.
Tu me disais Maurice Ducrot.
Oui, je crois Maurice Ducrot, ouais.
Voilà,
oui,
donc, tout à fait. Enfin, c'est clair que voilà, on ne fait pas de, d'illusions sur les pratiques de la CFDT. Hein. Ça serait si c'était un syndicat de lutte, mais ça, enfin, la trahison, elle est là aujourd'hui. Je crois que tout à l'heure, en appelant le copain, là, Ali, qui avait déjà intervenu sur la radio, il disait c'est un coup de poignard dans le dos. Et voilà, là, c'est le coup de massue pour tout le monde, hein, de toute façon.
Bon, après, les choses ne sont jamais terminées. Tant que les gens sont pas dehors, c'est pas de l'optimisme de dire ça, mais c'est que dans une bataille, dans une guerre de classe, on avance, on recule, des fois on perd du terrain, des fois on gagne. Moi, je crois que ce qui est aussi important de dire, c'est que cette hausse de la propagande patronale, bien aidée en cela aussi par les responsables politiques, hein, puisque la mère Aubry a bien joué son rôle là-dedans. Il entrait aussi en concurrence avec un mouvement qui était en train de s'organiser et de grossir.
C'est ça, ouais. Ouais, ça, c'est vrai que les dernières semaines, on a vraiment. Enfin, moi, j'ai vu un mouvement, tu vois, avec des positions, c'était des positions de classe, quoi. Enfin, il fallait vendredi, les gens, ils étaient clairs avec eux, quoi. C'était nous, on est des ouvriers, en face, c'est des cadres, en face, c'est des gens qui ont des diplômes. Je me souviens avoir discuté avec quelqu'un qui disait, ben nous, pour nous reclasser, c'est que dalle, quoi. Il n'y a que de chi, quoi. Et il y avait une certaine autonomie qui était là, quoi. Puisque les redoutables, ils allaient même s'inviter à l'intersyndicale, et leur voix, voilà, était prise en compte. Ils avaient réussi à amorcer quelque chose. Après, bon, c'est toujours la même chose, hein, c'est toujours trop tard, et puis.
D'autant plus que c'est n'importe quoi, parce que je suis en train de j'ai regardé quelques trucs avant avant l'émission, mais c'était pas le dépôt de bilan qui était au bout de cette semaine là, c'était le passage au tribunal pour prononcer ou non la liquidation judiciaire.
Ça.
Donc ça va, quoi, avant d'avoir le dépôt de bilan et même avant d'avoir la liquidation judiciaire, il y a des administrateurs judiciaires qui sont nommés, qui peuvent éventuellement reprendre, y avoir des repreneurs, etc., etc. Non, là, le principe, c'était que la pression était faite pour que ça soit les deux personnes, là, Bala et Corteil, qui reprennent, et à ce moment-là, Pinault, donc Kering, mettait de l'argent dans le fonds de fonctionnement pour les départs volontaires, etc., etc. C'est juste ça, quoi. Donc il y a quand même un malaise là-dedans. Il y a vraiment eu une putain de propagande de réaliser contre un mouvement qui pouvait gagner, quoi.
Et bourrage de crâne qui après voilà, on dit Jean-Claude Blanquart, mais bon, je pense que la CFDT, ils ont aussi préparé le truc, puisque ce matin, d'après ce qu'on a dit à l'Assemblée générale, c'était vraiment, on a voulu faire comprendre aux ouvriers qu'il y avait 6000 personnes derrière et que en gros, ça allait être la grosse catastrophe. Mais ce que tu dis, c'est vrai, hein, c'était juste remettre le dossier au tribunal de commerce. Il n'était pas question de mettre en faillite la redoute. C'est clair, mais le doute était là, et le doute, ils ont réussi à le foutre dans la tête
des gens. C'était bien.
Même si, attention, les redoutables, ils étaient vraiment, ils étaient clairs aussi avec la lutte, quoi. Ils veulent la continuer.
Mais de toute façon, ouais, il faut la continuer, il faut être attentif, parce que tant que l'argent est pas dans la poche, c'est rien. Une parole de patron, ça ne vaut rien du tout. Moi, j'ai souvenir il y a quelques années, en 2002, à LM, il y avait une filature qui était là, la filature. Mayasu, où le mec est parti avec les machines dans la nuit, a signé, a jamais payé, etc., etc., quoi. Donc ça vaut rien du tout, quoi. Les signatures, ça vaut rien du tout, quoi. Et c'est ça qu'il faut qu'ils arrivent à imprimer pour se donner de la force pour continuer, quoi.
Ouais, c'est.
Oui, c'est plus facile à dire quand on est derrière
voilà,
le micro.
C'est ce que j'allais dire, parce que. Enfin après il faut aussi ils n'étaient pas très nombreux non plus hein les redoutables c'est 150-200 personnes la Martinoire par exemple c'est 1200 ou 1300 salariés mais enfin vraiment il y a un mouvement qui était en train de poindre quoi Ouais. Et pour l'avoir vu à l'œuvre vendredi, c'était vraiment, c'était une journée hallucinante, quoi. Vraiment où tu voyais la conflictualité vraiment avec les cadres en face, la direction, l'avocat des syndicats qui fait Califano, c'est un mec qui s'est présenté, un mec du PS, qui aussi a fait son travail de bourrage de crâne. Hein.
C'est Mario Califano, c'est ça?
C'est ça, ouais, c'est lui.
Mario Califano, donc il se présente en seconde position sur la liste municipale de Croix. Croix, alors avant, parce que c'est plus maintenant, mais avant c'était la ville la plus riche de France.
À côté de Roubaix, qui est la ville voilà. La plus pauvre.
Et il habite à Roubaix quand même, hein, il est près de ses administrés. Mais il ne peut pas habiter à Croix, c'est trop cher pour lui, de toute façon. Mais bon, ça vous donne un peu le prototype du personnage, quoi, le type du personnage. Quoi. Ouais, donc tu disais que ouais, l'état d'esprit, quand tu as eu les camarades au téléphone, c'était forcément bam, ouais.
Bah là, ouais, il y a le coup qui est tombé, quoi. Donc après, demain, ils se réunissent, ils vont discuter de la suite, quoi. Mais de toute manière, il y aura des suites, hein, peut-être pas dans les jours à venir, parce qu'il va falloir avaler la pilule, mais je pense que voir des drapeaux CFDT cramés et tout, ça peut être envisageable, quoi.
Mais ça me paraît incroyable, hein, parce que le coût social de cette histoire va être terrible pour Roubaix, quoi.
C'est
la fin de cette ville, quoi.
Ouais, ils vont partir avec 20 000. C'est pas terrible, hein, c'est mon grand plaisir. Hein.
Et oui.
Moi, j'ai suivi l'affaire de ce que vous avez, de ce que vous discutez, sans avoir de contact, bien évidemment, dans l'entreprise. J'ai suivi ça au niveau média. Mm-hmm. J'étais vraiment très motivé pour écouter. Depuis samedi, hein, et j'ai trouvé, mais c'était cousu de fil blanc, cette histoire. Au départ, on te dit, on t'interviewe dans les médias une femme de la CDT qui dit qu'ils ne vont pas trahir, qu'ils ne signeront pas, etc., etc. Alors, dans les médias, monte, évidemment, on te dit pas, mais tu comprends que c'est les cadres qui veulent faire en sorte que la redoute en tant qu'identité reste. La redoute, et que pour ça, il faut sauver l'entreprise, et pour ça, il faut signer. On apprend qu'il y a des discussions qui vont redémarrer lundi. La femme de la CFDT qui parle dit non, c'est pas vrai, non, mais tu le sens que c'est vrai, quoi. Tu sens que tu fais effectivement au niveau de l'état-major CFDT, eh bien il y a des choses qui se passent, en particulier il y a des Parisiens, comme tu l'as dit, qui montent à Lille, il y en a d'autres qui vraiment vont tout faire pour que, eh bien, faire en sorte de signer. Et finalement, aujourd'hui, lundi, ça s'est fait, quoi. C'est vraiment la trahison de classe haut de gamme avec les médias qui sont... D'ailleurs, d'habitude, quand il y a une lutte de ce type, c'est rare que les médias suivent aussi longtemps l'affaire. Tu vois, c'est bon. Et là, on avait vraiment une surinformation, alors qu'on était dans une période d'élection municipale, et on avait une information sans problème, des informations sans problème au niveau des médias, alors que d'habitude, bon, quand il y a un événement comme les élections municipales, les luttes ouvrières, généralement, on n'entend pas causer, quoi. Mais là, vraiment, c'était vraiment bien fait pour faire en sorte qu'on aboutisse aujourd'hui à cette trahison de la CFDT.
C'est ça, oui, effectivement, de présenter cette espèce de mouvement, de lutte, de gens qui se battent pour leur survie, mais de l'extrapoler, de le transporter, ben un peu comme on disait avec le camarade avant, hein, de transformer le problème de gens qui veulent de l'argent pour pouvoir survivre en la fin de la redoute et cette espèce de jusqu'au boutisme et de tragédie, quoi. Alors les tragédies de marque, c'est toujours assez intéressant, mais il y a des tragédies humaines, quoi, derrière. Et ça, on n'en parlait vraiment pas, quoi. On parlait vraiment pas du tout, quoi. Écoute, que tu disais, demain, il y a quand même une assemblée générale, non, c'est ça?
C'est ça, ouais. C'est ça, ils se réunissent, et puis ils vont se compter, et puis discuter de la suite de la chose, quoi.
Moi, je pense que il faut transformer. Enfin, je pense. À la limite, on s'en fout de ce que je pense, mais ce que je peux espérer, c'est que cette indignation, ce coup de massue, comme tu disais, que cette sidération, elle se transforme en colère, quoi. Et que si la conscience et l'auto-organisation elle a pu commencer, eh ben il faut franchir de nouveau les pas à la construction d'un mouvement qui trouve sa force en lui-même, c'est-à-dire son autonomie, quoi. L'inégalité, ses propres programmes, ses propres décisions, arrêter de bosser, de toute façon, il n'y a plus question de travailler maintenant pour ces gens-là qui vous foutent dehors, quoi. Enfin, je ne sais pas. Bon, de toute façon, on se tient au courant, hein.
Ouais, bien sûr, mais t'as raison, hein, il va y avoir, ça va ressurgir parce que je vois pas les gens repartir au boulot comme ça, quoi.
Ouais.
Enfin, c'est difficilement imaginable, en tout cas.
Je te laisse le dernier mot.
C'est une grande responsabilité, bah, affaire à suivre, et puis encore une fois, merci la CFDT, et puis,
encore une fois.
Enfin, c'est, malheureusement, c'est une tragédie, comme tu dis, qui se répète, et à qui le prochain, tu vois, un petit peu, sur le défaitisme, quoi, un petit peu.
Bah, il faudrait se livrer, mais même si on n'a pas besoin de le faire, vu qu'on a des exemples quasiment quotidiens, mais aujourd'hui, véritablement, la fonction de la CFDT dans le paysage syndical français, c'est incroyable, quoi. Vraiment incroyable, quoi. C'est vraiment le rouage, à la fois la roue de secours du patronat et le rouage étatique pour les négociations, quoi.
C'est une courroie de distribution.
Voilà, c'est une espèce de couteau suisse de la bourgeoisie, en fait. Peut remplir plusieurs fonctions, quoi. Bon, et ben écoute, Fabien, merci.
Ben de rien.
Ah, merci.
À bientôt, en vrai ou au téléphone, hein, je ne sais pas.
Ça marche, bah, pas de souci.
Bonne soirée, salut.
À vous aussi. Salut tout le monde, ciao.
Ciao. Bon alors. Oh. Ah mais on pouvait écouter Angelico Start, il y a pas de problème, moi ça m'aurait fait bien plaisir. Non, c'est juste je voulais juste vous dire que si vous vouliez creuser ce sujet de la Redoute, le numéro de Courant Alternatif de mars 2014, le numéro 238, hein, qui est tout rouge.
Et noir
avec une belle photo, revient là-dessus, et le suivant
le
également
suivant d'avril.
D'avril qui va sortir la semaine prochaine, donc 10 jours si tout va bien, essaye aussi d'avoir une analyse un peu plus large de ce qui se passe à la Redoute, quoi, parce que c'est important de comprendre que ce qui se déroule en ce moment à la Redoute, et en même temps, quand on met ça en relation avec les discussions qu'on a eues sur la réforme chômage, c'est pas seulement, alors bien sûr c'est une lutte de gens, c'est des luttes des gens qui se battent dans un secteur géographique, politique précis, le Nord et le socialisme et le mouvement ouvrier, mais c'est aussi un moment particulier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette restructuration, hein, qu'on nous vend sous le nom de crise, qui est en fait une véritable restructuration du capital, c'est-à-dire la transformation des normes de l'exploitation, eh bien c'est quelque chose qui s'avance, qui s'enclenche et qui se bat, et c'est vraiment admirable, c'est que en France, toutes les restructurations du capital, toutes les échelles et tous les moments qualitatifs qui ont été franchis par le capitalisme et l'exploitation, eh ben, elles ont été permises grâce à la gauche, qui grâce à ses rouages sociaux, grâce à sa social-démocratie, à sa méthode politique et de cette méthode de gouvernance, permet au capitalisme justement de franchir sans encombre les étapes nécessaires à son développement.
Sauf que bon, quand on regarde le taux d'abstention ce week-end, bien, je crois que le PS n'a pas trop à
ça. Et des fois, ça marche pas.
Ouais, c'est sûr.
La globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on le considère ni fatale, pas du tout. On ne la considère pas fatale. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se tuer les gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Je vous propose de vous retirer maintenant, monsieur de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer. personne ne nous en empêche.
Allez, bonsoir, c'était les Rigors, chaque semaine sur l'écho des Garrigues Montpellier, Canal Sud à Toulouse, Radio Primitive sur Reims. Les Rigors, une parole narcissique communiste que vous pouvez retrouver quand vous voulez sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site OC Libertaire.